Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 691 du podcast Touchdown Actu. Lucas, voilà, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va débriefer les trois affiches de la semaine 14. Trois des meilleures affiches de la semaine 14 parce qu'il y a eu pas mal de matchs. Et à mes côtés, pour parler de ces trois affiches, il a commenté un match sur 6 play jusqu'au bout de la nuit. Hein. Une belle prolongation, rebondissement, mais il est là avec nous dès le lendemain. Raphaël Masmejean, comment ça va, Raph?
Salut Lucas, salut à tous. Eh ben écoute, ça va plutôt bien, comme tu dis, un très joli match hein, entre les Ravens et les Rams, dont on aura l'occasion de reparler demain. Enfin, le reste de l'équipe aura l'occasion d'en parler demain, mais c'était un beau match entre deux belles équipes.
Ouais, on a hésité, hein. On a hésité à le mettre aujourd'hui, on va pas se mentir. On est parti, vous allez le voir, sur une spéciale NFC, quasiment, avec trois matchs dans cette conférence, dans cette National Football Conference, et trois matchs du haut de tableau en plus, avec la prise de pouvoir officielle des 49ers dans cette conférence, la défaite des Lions face à un adversaire de division. Mais on va surtout commencer, Raphaël, par le match que tout le monde attendait, le Sunday Night Football entre Dallas et Philadelphia, cette NFC East qui nous a donné pas mal de beaux matchs, et ils ont continué à nous donner un beau match. On commence par ce match entre les Cowboys et les Eagles, des Cowboys qui prennent la tête de la NFC East grâce à cette victoire, un succès 33-13 qui n'a souffert de quasiment aucune contestation. Dallas a pris le score d'entrée avec 10 points dans le premier quart-temps. Les Texans, pas du tout, oui, les Texans, je me suis noté les Texans, mais oui, Dallas c'est bien au Texas.
C'est
juste qu'on a, quand on dit Texans, on pense à Houston, mais les joueurs qui jouent au Texas, donc des Texans, ils menaient 24-6 à la mi-temps. Ils ont dominé de bout en bout, je l'ai dit, 33 points inscrits, un seul touchdown encaissé, et en plus il vient d'un fumble retourné, donc ce n'est pas vraiment la défense qui encaisse ce touchdown. Tout allait pour le mieux pour les Cowboys. J'ai envie de dire, Raphaël, enfin, tout va pour le mieux pour Dallas face à une grosse équipe.
Effectivement, c'est ce qu'on attendait de Dallas. On voulait les voir face à une grosse équipe parce que cette saison, les démonstrations qu'ils avaient pu proposer étaient globalement contre des équipes de bas de tableau. Donc il y avait toujours cette petite question, ce petit doute. Même si on se rend compte quand même que week-end après week-end, battre les petites équipes, c'est pas non plus si facile. Et les écraser, ça l'est pas encore moins. Donc il fallait peut-être pas sous-estimer non plus Dallas pour ça, c'était quand même dans leur un bon point pour eux. Et donc là, ils ont enfin prouvé que face à un des leaders de la ligue, ils pouvaient être une équipe extrêmement complète. Encore une fois, Dallas a globalement impressionné des deux côtés du ballon, et c'est ça qui est vraiment positif pour eux. C'est autant l'an dernier, on sentait que c'était la défense qui avait vraiment pris le pas sur l'attaque, autant là, depuis, je dirais, un mois, on a deux équipes, enfin, les deux escouades de l'équipe sont vraiment au même niveau quasiment, et ça déroule en attaque, ça déroule en défense. Il commence à être difficile de voir des points faibles dans cette équipe.
Oui, c'est vrai que tu l'as dit. Pour moi, c'était vraiment la dernière petite marche que Dallas devait faire pour être vraiment l'un des grands favoris. C'était battre une équipe qu'elle pourra rencontrer dans plusieurs semaines, et plusieurs semaines, les playoffs qui arrivent rapidement. Ils avaient perdu face aux 49ers, mais comme tu le disais, ils battaient tout le reste, toutes les autres équipes. Mais c'est vrai que ces grosses équipes-là, ils avaient du mal à les faire tomber. Ils le font là, et en plus avec, comme tu l'as dit, une équipe très complète. On va commencer par cette attaque, mais il y aura tout autant à dire avec la défense. Il y a 138 yards au sol, il y a des receveurs avec un ballon qui est parfaitement distribué. On a Ferguson, le tight end, avec 72 yards. On a CeeDee Lamb, qui est exceptionnel cette année, à 71 yards. Il y a une ligne offensive qui est toujours aussi forte, avec parmi les meilleurs joueurs quasiment à chaque poste. Et on a un Dak Prescott qui finit avec 24 sur 39, 271 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Cette attaque-là, elle peut prendre n'importe quelle défense, on a l'impression, dans cette ligue.
Je suis d'accord. Depuis maintenant un mois et demi, il y a une vraie montée en régime de cette attaque, et notamment la partie aérienne, hein, avec un Dak Prescott qui distribue le ballon, qui est d'une précision exemplaire. Et il a gommé en plus son petit défaut d'interception de l'an dernier. L'an dernier, il avait vraiment eu comme défaut dans son jeu d'avoir lancé beaucoup d'interceptions. Là, cette année, là-dessus, il est vraiment propre. Alors, peut-être qu'il joue un peu moins risqué que sous Kellen Moore, que McCarthy est revenu à un play call un peu moins risqué. Mais en tout cas, ça, pour le moment, ça sourit à Dak Prescott. Et il n'y a rien à lui reprocher parce que le ballon est distribué parfaitement. Les passes sont bonnes, les lectures sont bonnes. Actuellement, il est dans... Enfin, tu me dis il est dans top 3 quarterback actuellement de la ligue, je tombe pas de ma chaise.
Ouais, c'était la question suivante, c'était il y avait trois petites lettres, MVP et un point d'interrogation. Est-ce que en tout cas il est dans la course vu ce que tu dis pour ce titre de MVP ?
Il est dans la course parce que il est quarterback d'une équipe à 10 victoires qui pourrait finir première de la conférence, donc à partir de là Il sera dans la course, et en plus il a un très bon niveau de jeu. Après, voilà, moi cette année, on a eu l'occasion de le dire à d'autres moments, cette année je suis pas sûr que le meilleur joueur de la ligue soit vraiment un quarterback. J'aimerais bien voir le trophée aller vers un ou deux autres joueurs, mais si on reste dans le traditionnel, dans le conservatisme quarterback, Dak Prescott pour moi fait partie des 2-3 favoris clairement.
Ouais, et puis il y en aura peut-être un dont on va parler plus tard aussi, mais c'est vrai que parmi les quarterbacks, en tout cas, il n'y a pas bien meilleur que Dak Prescott en ce moment sur la saison entière. C'est vrai qu'il est, serein, on le sent bon, on le sent aussi qui pour l'instant, et on va toucher du bois pour lui et les supporters des Cowboys, il évite les blessures. On sait que c'est toujours un petit peu des coups d'arrêt pour lui dans les saisons, et pour l'instant il y échappe un petit peu. Et puis il y a ce jeu au sol aussi, je l'ai dit, 138 yards, c'est pas un jeu au sol qui va nous faire lever notre chaise comme pouvait être Ezekiel Elliott par exemple quand il était au top de sa forme. Mais en même temps, on a un Tony Pollard qui est bon, on a une ligne offensive, je l'ai dit, qui est très bonne, et qui du coup est un second couteau par rapport à l'attaque aérienne, mais un second couteau qui marche bien et qui permet à cette attaque d'être vraiment complète.
C'est ça, ils arrivent à utiliser le jeu au sol quand il faut, en tout cas à libérer un peu de poids sur les épaules du jeu aérien. C'est pas toujours le plus efficace, hein, mais t'as un Tony Pollard qui par exemple est à 3,7 yards par portée. C'est pas incroyable, c'est pas un jeu au sol dominant, mais c'est suffisant pour quand même fatiguer la défense adverse, l'obliger à malgré tout défendre la course, à ne pas se concentrer que sur la passe, et donc garder des hommes dans la boîte, limiter le nombre de cornerbacks, safety que tu peux mettre en défense, parce que Dallas reste une menace au sol, tu peux pas l'enlever que sur un coup au sol tu puisses te faire exploser par Pollard ou Doddle. Donc c'est bénéfique pour cette attaque, et là-dessus, c'est la transition avec le départ du coordinateur offensif Kellen Moore, c'est quand même bien fait du côté de Dallas.
Oui, c'est vrai que c'était une vraie histoire, une vraie story avant le début de la saison, et manifestement ça allait plus beaucoup quand on voit cette attaque performer. Les Cowboys qui sont sur 5 victoires d'affilée actuellement, ils ont remporté 7 de leurs 8 derniers matchs. Et il y a aussi une grosse partie qui est due à cette défense, tu l'as dit, qui a bien limité les Eagles sur ce match. Et puis il y a un homme qui symbolise un petit peu ça, j'ai l'impression, c'est Stephon Gilmore, le cornerback pardon, qui a suivi notamment AJ Brown un petit peu partout. Alors quand on regarde les statistiques d'AJ Brown, c'est 9 réceptions, 94 yards. Mais en même temps, on a l'impression que Stephon Gilmore, il est rentré dans sa tête. Il fait un super match, l'ancien défenseur de l'année. À 33 ans, il provoque un fumble. C'est vraiment le symbole pour toi de cette défense qui est aussi très bonne par rapport à l'attaque.
C'en est un des symboles, effectivement. C'est vrai que Gilmore, il était arrivé à Dallas un peu sur la pointe des pieds. Je vais pas dire en fin de carrière, mais pas loin quand même. On se demandait un peu, on avait l'impression que ça allait être un cornerback de complément, de rotation, et que voilà, par rapport à son âge, il viendrait compléter une escouade défensive. Et finalement, sous les ordres de Dan Quinn, il a complètement relancé sa carrière, et j'ai envie de dire presque pris une seconde jeunesse. Il est redevenu ce cornerback vraiment qui laisse très peu d'espace. Alors il accorde des réceptions, mais derrière, t'as quasiment aucun yard en fait, tu ne peux presque pas avancer. Il reste très fort sur le plaquage, il te colle. Et donc et là pour le coup, il avait vraiment un sacré client parce que AJ Brown normalement c'est quand même un receveur extrêmement physique, et une fois qu'il fait une réception, il est capable de casser ton plaquage, d'avancer. Donc c'est une vraie belle prestation de Gilmore, et effectivement, il symbolise quand même cette escouade défensive très très forte sous les ordres de Dan Quinn où tout le monde est au niveau et voilà, tout le monde est au niveau tout simplement.
Ouais, Stephen Gilmore, 33 ans, tu l'as dit, on se rappelle de lui aux Bills déjà, on se rappelle de lui aux Patriots, il avait quasiment fait gagner un Super Bowl face aux Rams, et c'est vrai que là il est très bon. On se rappelle, comme tu l'as dit, il est arrivé en trade parce qu'il devait être joué de l'autre côté du terrain de Diggs. Diggs a été blessé pour la fin de la saison, il a quasiment pris le rôle de cornerback numéro 1. C'est vrai que pour l'instant il assure très bien, ça fait quelques semaines qu'il suit le receveur numéro 1, il va en avoir d'autres parce qu'on va parler tout à l'heure du calendrier, mais c'est vrai qu'il va être important, Stephen Gilmore. Pour Philadelphia, on a beaucoup parlé des Cowboys. Est-ce que c'est inquiétant, deuxième défaite consécutive pour eux? Est-ce qu'on se pose des questions, notamment sur cette défense qui prend beaucoup de points?
Ouais, c'est vrai que sur la défense, c'est peut-être là où il y a une vraie inquiétude. On a eu un niveau défensif qui est quand même plus faible que l'an dernier. Les cornerbacks, à l'image de Darius Slay, sont beaucoup moins bons que l'an dernier. Alors, le poste de linebacker, je l'exclus un poil parce qu'il y a beaucoup de blessures sur cette escouade-là, donc forcément, t'es sur les remplaçants, c'est un peu moins bon. Et un des gros problèmes, à mon sens, c'est aussi la ligne défensive. L'an dernier, on avait quand même la meilleure ligne de la ligue en termes de passes, de sacs, pardon. De mémoire, ils avaient atteint les plus de 70 sacs l'an dernier. Enfin, c'était vraiment une machine de guerre à ce niveau-là. Et là, sans être catastrophique, ils sont quand même beaucoup moins dominants dans ce domaine-là. Et le problème, c'est que les Eagles investissent beaucoup sur la ligne défensive. Enfin, c'est une équipe qui drafte dans les tranchées, qui met de l'argent là-dessus. Et pour le moment, je trouve que cette ligne défensive n'est pas au niveau attendu. Et j'ai noté une petite stat qui, à mon sens, est assez parlante là-dessus. Sur les troisièmes tentatives, pour le moment, les Eagles, depuis le début de la saison, arrivent à saquer le quarterback que sur 5% des passes de l'adversaire en troisième tentative. C'est le pire ratio de la ligue. C'est pas ce qu'on attend d'une équipe qui mise autant sur sa ligne défensive. On peut pas avoir le pire ratio de sacs sur troisième tentative. Et ça, je pense que c'est un des vrais problèmes, parce que quand la ligne défensive est pas aussi bonne que prévu et met moins la pression, ça, on le sait très bien, ça met en plus en difficulté des cornerbacks qui sont en difficulté déjà. Et cette défense, pour le coup, m'inquiète vraiment.
Oui, parce que les Eagles, l'an dernier, ils atteignent le Super Bowl sans vraiment avoir une escouade bien meilleure que l'autre. Alors l'attaque est très bonne, la défense est très bonne, mais les deux escouades sont très bonnes à très haut niveau, on aurait eu du mal à trouver l'an passé quelle escouade était meilleure. Sur certains matchs c'était le cas, mais ça pouvait changer. Et c'est vrai qu'on a l'impression que si les deux escouades ne sont pas à très haut niveau, cette équipe-là, elle pourrait avoir du mal à continuer. On l'a vu face aux 49ers, on l'a vu face aux Cowboys sur ce match. Il va falloir vraiment une équipe de Philadelphia qui retrouve un niveau global très haut et très complet s'ils veulent continuer à espérer. On parle de Super Bowl hein, pour cette équipe, parce que les playoffs c'est quasiment assuré. On parle de Super Bowl.
Oui, bien sûr, les playoffs sont comme tu dis, sont assurés, j'ai même envie de te dire, à 10 victoires, sachant que derrière le 7e en NFC est à 6 victoires. Bon, faudrait vraiment une catastrophe industrielle pour que Philadelphie n'aille pas en playoff. Hein. Ça doit, à mon avis, les probas là-dessus doivent être très très faibles. Donc effectivement, on parle du titre. Faut une équipe à très bon niveau. Et c'est vrai que depuis le début de cette saison, on a l'impression qu'en fait, Philadelphie ne peut s'en sortir que grâce à son attaque. En tout cas, ne peut compter que sur son attaque pour aller remporter des matchs. Alors là, l'attaque met pas beaucoup de points, mais il y a 3 pertes de balles. Bon, c'est pas une habitude non plus de voir AJ Brown fumble, Devonta Smith fumble. Je pense que ça, c'est des petits détails individuels qui peuvent s'améliorer. Mais si la défense vient pas apporter son aide là-dedans, là, il va falloir que les Eagles aillent sortir des prestations énormes à chaque fois en attaque. Et ça va être compliqué parce que pour le coup, ils arrivent pas non plus à développer leur jeu au sol comme l'an dernier. Donc bon.
Ouais, il va falloir se méfier parce qu'en plus, ça fait quelques matchs qu'ils arrivent de derrière, comme on dit, hein, qu'ils sont menés. Alors, ça a plusieurs fois donné des victoires, mais c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'ils n'arrivent pas à repasser devant, comme tu le dis, notamment avec des pertes de balles. Tu disais playoff quasiment assuré. La question qui se pose désormais, c'est cette division, et on va terminer sur ça. La NFC Est, les deux équipes sont à égalité désormais. Les Cowboys sont devant parce qu'ils ont partagé les matchs, une victoire partout. Mais pour l'instant, les Cowboys ont le meilleur bilan dans la division parce qu'ils ont un match de plus. Les Eagles, à qui il manque un match, ce sera en tout cas, il manque deux matchs face aux Giants. Justement, le calendrier pour la fin de saison, les Cowboys, il va y avoir un déplacement à Buffalo, un déplacement à Miami, réception des Lions, déplacement à Washington. Et les Eagles, ce sera déplacement à Seattle dès la semaine prochaine, réception des Giants et des Cardinals pour terminer à New York face aux Giants. Qui tu vois remporter cette division? Et petite information, si les deux équipes gagnent tous leurs matchs, ce seront les Eagles qui seront devant.
C'est ça, et si je dis pas de bêtises, ils seront devant grâce notamment à une victoire contre les Cardinals. Parce que c'est après, quand on prend les confrontations dans la division, on prend les confrontations conférence. Et Dallas ayant perdu contre Arizona, et là si les Eagles gagnent tous les matchs, les Eagles seront battus Arizona, donc bref, ça pourrait être les Cards qui décident du numéro 1 en NFCS, ça serait assez drôle. Moi je pense que les Eagles vont garder la tête de division, leur calendrier me paraît un poil plus abordable. Alors ils sont peut-être un peu moins bien, moins bonne dynamique que Dallas, mais Dallas là il y a quand même les Bills et Miami qui arrivent. Deux équipes qui ont besoin vraiment de gagner de leur côté, alors que je sais pas, Seahawks, Giants me paraît plus prenable, Cardinals ça me paraît plus prenable aussi, petit avantage Eagles pour moi.
Oui, je suis assez d'accord avec toi, avantage Eagles. En effet, les Cowboys sont très solides, mais là, il y a deux déplacements très costauds du côté de l'AFC Est avec le Buffalo et Miami. Et il suffirait peut-être d'une défaite pour les faire repasser derrière, même si Dallas est très costaud, surtout à domicile, on l'a vu. Justement, la NFC Est est en jeu entre les Cowboys et les Eagles. La tête de la NFC aussi est en jeu, puisque avec cette défaite des Eagles, ce sont les 49ers qui sont passés devant. Et j'ai envie de dire, qui peut arrêter les 49ers en ce moment? C'est un peu la question qu'on se pose. Encore une fois, les hommes de Kyle Shanahan ont régalé avec une victoire 28-16 sur leur adversaire de division, les Seahawks. Cinquième victoire consécutive, ils n'ont plus perdu depuis le 29 octobre. Ils profitent, je l'ai dit, de la défaite des Eagles pour prendre la tête. C'est la question que j'ai envie de te poser. Rouleau compresseur, qui peut arrêter San Francisco actuellement?
Qui peut arrêter San Francisco? C'est une bonne question. Je vois pas beaucoup d'équipes, en tout cas pour le moment, pour les arrêter.
Ils sont impressionnants.
Ils sont impressionnants parce qu'offensivement, ça continue à dérouler. Et là, depuis 3 semaines, c'est Deebo Samuel qui est complètement revenu au top et qui porte notamment l'attaque. Ça veut pas dire que les autres font rien, mais voilà, ils brillent peut-être encore un peu plus que les autres, j'ai envie de dire, depuis 3 semaines. Et en défense, ça donne vraiment ça donne pas grand-chose à l'adversaire. Seattle fait pas un match ridicule, hein. Ils sont une partie du match, ils sont dedans. Il y a un moment, pendant toute une partie, première mi-temps, ils restent à 7 points derrière. Enfin, Seattle s'accroche, mais tu sens que quand San Francisco a la capacité d'accélérer, ça devient très très compliqué de les suivre. Et je sais pas, sincèrement, pour répondre à ta question, ils sont tellement forts en attaque, tellement forts en défense, que je crois que c'est une équipe qui, si elle perd, c'est parce qu'elle aura, elle, fait des erreurs plus que été battue à son propre jeu, quoi.
Ouais, tu l'as dit, dans ce match, c'est deux équipes qui s'étaient rencontrées il y a très peu de temps déjà, et les 49ers avaient complètement explosé les Seahawks. Ce match-là, c'était pas vraiment ça. Les Seahawks ne sont pas venus vraiment en victime, ils prennent même l'avantage. À un moment, ils mènent 17 dans le premier quart-temps, mais ça dure que très peu de temps. Les 49ers passent devant et ils lâchent plus jamais l'avantage parce que, on l'a dit, ils sont en rouleau compresseur. Tu parlais des joueurs, si je donne les statistiques, elles sont folles. Christian McCaffrey, c'est 145 yards au sol. Deebo Samuel, c'est 7 réceptions, 149 yards. Un touchdown à la réception, un touchdown au sol. Ayuk, c'est 126 yards. George Kittle, c'est 3 réceptions, 76 yards, un touchdown. Je vais m'arrêter là. Mais j'ai l'impression, et on le voit dans ce match-là, qu'ils sont tous en train de performer. Là où à un moment, peut-être, c'était un coup McCaffrey, tu l'as dit, un coup Deebo Samuel, peut-être. Là, on a l'impression, même si Deebo Samuel est un peu au-dessus des autres sur ce match-là, mais que le danger peut venir véritablement de partout. Et c'est ce qui s'est passé face à Seattle.
C'est vrai qu'ils arrivent à faire briller un peu tout le monde en même temps ces dernières semaines, ce qui n'était pas, comme tu l'as dit, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Donc ça, c'est vraiment au crédit de Kyle Shanahan, hein, qui arrive avec des plans de jeu et qui s'adapte en cours de match pour faire briller un peu tout le monde. Pour le moment, voilà, c'est réglé comme du papier millimétré. Il n'y a pas grand-chose. Le retour de blessure aussi de Trent Williams sur la ligne offensive a fait un bien monstrueux, parce qu'en jeu de course, bon bah, il pose des blocs sur le côté gauche et sincèrement, il suffit de passer derrière et tu fais déjà 10-15 yards presque. Ouais, c'est juste impressionnant. Je le redis, hein, je pense que c'est eux qui se battront plus que l'adversaire qui ira les battre. Voilà.
Oui, parce qu'il y a cette défense aussi qui est quasiment impériale, malgré quelques blessures dans la secondary. Et puis moi, ce qui m'impressionne, si je peux terminer sur cette attaque, c'est aussi les jeux explosifs, les jeux de plus de 20 yards. Ouais, il y en a énormément. Ouais. Le match commence par une course de Christian McCaffrey de 72 yards. Il y a Deebo Samuel qui a une réception de 54 yards. Il y a Ayuk 45. La plus longue réception de Kittle, elle est de 44 yards. Donc c'est vrai que ça peut venir de partout. Brock Purdy, pour l'instant, joue le chef d'orchestre parfait. Et c'est vrai qu'ils sont pour l'instant, ils sont devant dans cette NFC, et on a du mal à voir qui pourra les déloger. En tout cas, ce ne sont pas les Seahawks, qui eux ont beaucoup de mal depuis désormais quelques années, 2-3 ans, face aux 49ers. Seattle s'est battu, mais Seattle n'était pas invité, on peut le dire.
Compliqué, effectivement, faut quand même rappeler qu'il jouait avec Drew Lock en quarterback, même s'il n'a pas été catastrophique, mais voilà, c'est en plus, c'était un petit désavantage par rapport au titulaire habituel Geno Smith. C'est une équipe de Seattle qui n'est en fait pas encore à ce niveau-là. Hein. On s'en doutait un peu. Ligne offensive moins bonne, jeu au sol moins bon, quarterback moins bon. Ça fait beaucoup de choses moins bonnes à la fin. Il y a un DK Metcalf qui continue par moments à péter des plombs et à se faire expulser de manière débile en plus. Et donc ça aide encore moins. Et je trouve qu'au-delà de l'attaque même de Seattle, il y a une défense de Seattle qui est peut-être un peu décevante. Qui n'arrive pas toujours à, je pense, exprimer le potentiel qu'on attend d'eux sur la ligne défensive notamment. Alors oui, il y a 3 sacs, mais ça reste trop intermittent en termes de pression. Et la paire de safety Jamal Adams-Diggs a été explosée dans tous les sens. Et donc ça, c'est problématique également.
Ouais, c'était Greg Olsen, l'ancien tight end, aux commentaires, et il a parfaitement expliqué, si vous avez eu l'occasion de voir ce match avec la retransmission américaine, il expliquait parfaitement comment les 49ers attaquaient ce système défensif et notamment les safeties des Seahawks. C'était très intéressant, notamment sur le touchdown de Deebo Samuel. Et c'est vrai que Kyle Shanahan, il a un petit peu le numéro, comme on dit, de Pete Carroll en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en ce moment, pour les Seahawks, pour conclure, ça fait 4 défaites de suite. Ils ont bien commencé, on les voyait en playoff et ça commence à se compliquer. Ils sont à même 5 défaites en 6 matchs. Drew Lock n'a pas été mauvais, mais est-ce qu'on les voit en playoff, Seattle?
Ça se complique. On l'a dit, hein, ils ont la semaine prochaine le match contre les Eagles qui reste en plus compliqué. Derrière, c'est beaucoup plus abordable. Hein. Titans, Steelers, Cardinals, tu peux finir la saison sur 3 victoires sans que ça paraisse fou. Ils vont rester en course, à mon sens. Je pense qu'ils vont y aller, mais voilà, après, ça risque d'être un petit tour et puis s'en va, quoi.
Ouais, on verra. C'est vrai que je suis assez d'accord pour les Seahawks. On verra ce qui se passe, mais ça paraît compliqué. La dynamique n'est pas dans leur sens. Tu parlais du calendrier pour terminer. Le calendrier des 49ers, eux, ce sera un déplacement aux Cardinals dès la semaine prochaine. Réception des Ravens. Celui-là, il est pas mal. Il pourrait ressembler à un potentiel Super Bowl. On en est loin, mais c'est deux équipes qui peuvent y prétendre. Super Bowl qu'on connaît bien. Ensuite, il y aura déplacement à Washington pour terminer face aux Rams. Donc, en effet, je suis assez d'accord avec toi pour dire que les 49ers, ils ont pour l'instant l'avantage. Et c'est vrai que s'ils le perdent, ça sera, à mon avis, uniquement à cause d'eux. En tout cas, voilà, les 49ers promettent cette conférence NFC désormais. Il y avait une autre équipe qui pouvait profiter de la défaite des Eagles, c'était les Lions. Et malheureusement, Détroit n'en a pas profité. Ils ont perdu à Chicago 28-13. Ils ont subi la loi de DJ Moore, le receveur qui a inscrit un touchdown à la course et un touchdown à la réception. Les Bears menaient 10-0 avant de voir les Lions repasser devant 13-10 à la mi-temps. Ils ont ensuite livré une deuxième mi-temps de grande qualité, on va en parler. Ils ont inscrit 18 points sans en encaisser aucun. On va commencer par les Lions. Raphaël, il y a 3 semaines, je crois, on débriefait avec Victor quasiment dans la même le lundi. C'était un lundi, parce qu'on le sait, on enregistre le lundi. On débriefait avec Victor. Il venait de jouer face aux Bears, les Lions. Ils n'avaient pas fait un très grand match. Justin Fields venait d'arriver. Les Bears avaient été meilleurs, mais c'est les Lions qui avaient gagné. Et on s'était dit, Détroit a du caractère. Détroit est capable de gagner des matchs où ils ne sont pas bons. Et le problème, c'est que depuis, ils ont perdu 2 de leurs 3 derniers matchs. Ils se sont là inclinés cette fois-ci pour de bon face à Chicago. Ça va très vite en NFL, on le sait, mais au final, est-ce que ça serait pas un petit peu inquiétant pour Détroit?
C'est peut-être c'est un peu inquiétant en termes de dynamique, parce que cette attaque de Détroit accumule les pertes de balles ces dernières semaines. C'est notamment là-dessus. En début de saison, ils étaient très très propres, à l'image de Jared Goff. De toute manière, c'est celui qui incarne et illustre le mieux ces pertes de balles. Il se met vraiment à les multiplier. je crois que là, même cette saison, il est déjà à 5 interceptions lancées juste contre Chicago. Donc autant dire que c'est 5 interceptions sur les 3-4 dernières semaines, rien que contre les Bears, ce qui fait beaucoup. C'est vrai qu'on a du coup une attaque qui, de Détroit qui portait vraiment l'équipe hein, depuis le début de saison, qui commence un peu à patiner. C'est potentiellement un peu inquiétant pour la suite parce qu'ils ne pourront pas se le permettre en play-off. Et il y a cette défense qui, pour moi, ne performe pas particulièrement, qui est franchement moyenne, on va le dire comme ça. Le pass rush n'est peut-être pas au niveau attendu. Aidan Hutchinson n'arrive pas à... Il avait bien commencé la saison, mais il n'arrive pas à poursuivre ce rythme-là et à exploser comme on pourrait l'attendre. Et ça fragilise les cornerbacks, ça fragilise un peu tout le monde. Donc oui, la dynamique est pas terrible. Là. Ils sont en train de ralentir au pire moment possible.
Oui, surtout que en effet, les Lions, là, ils font deux matchs très moyens face aux Bears, qui est l'une des pires équipes, en tout cas statistiquement, de la Ligue. Certes, c'est un adversaire de division, on le sait que c'est toujours un petit peu particulier, les deux équipes se connaissent très bien, mais là, en deux matchs, ils font une victoire, une défaite, mais ça aurait pu très bien faire deux défaites, ça n'aurait choqué personne au vu des performances. C'est vrai que ça devient inquiétant, parce que les Lions, désormais, quand on voit leur début de saison, ça vise beaucoup plus haut, je l'ai dit, ça visait là, il y avait une occasion d'être à égalité en tête de la NFC, donc de les voir se faire accrocher et voir même perdre face aux Bears, c'est vrai que c'est pas des bons signes envoyés pour une saison qui arrive à son terme dans des matchs très importants désormais.
Non, effectivement, c'est pas bon signe. Donc là, on va vraiment voir de quel bois est fait, j'ai envie de dire, Dan Campbell en tant que coach. Est-ce qu'il arrive à remobiliser un peu tout ça, à se remettre en question avec ses coordinateurs pour essayer de relancer la machine? Mais sur ce qu'il monte depuis 3 semaines, c'est pareil, ça va aller en play-off parce que le bilan, à mon avis, ils ont assez d'avance pour ne pas rater les play-offs. Mais ça risque d'être très compliqué derrière.
Ouais, ils ont de l'avance pour ne pas rater les play-offs. En revanche, le titre de division dans cette NFC Nord, il n'est pas assuré non plus. Il y a désormais les Vikings qui sont à 2 matchs derrière eux. Les Packers, on l'a dit, on enregistre lundi. Donc ils pourraient, avec une éventuelle victoire ce soir, vous connaîtrez le résultat quand vous allez écouter le podcast, mais ils pourraient revenir à 2 victoires. Au vu de la dynamique, c'est sûr que 2 matchs, c'est assez confortable quand on sait qu'il en reste 4. Mais au vu de la dynamique, et puis surtout les Lions, ils vont jouer 2 fois les Vikings. Ils les ont pas encore joués cette saison. Alors... Ils vont les jouer là-bas et ils vont les jouer à domicile. Vous allez parler des Vikings demain. C'est pas forcément l'équipe qui fait le plus peur dans la ligue actuellement.
C'est ça.
Mais on sait jamais. Une victoire 3-0 sur 1-0 sur un penalty, sur un corner ou quelque chose, ça peut aller. Bon.
On sait jamais, mais effectivement, vu la prestation que viennent de sortir les Vikings. Disons que si t'es Détroit, t'es pas non plus, tu trembles pas forcément non plus, quoi.
Non. Et en même temps, il y a la réception des Broncos la semaine prochaine.
Ça, par contre,
il y a le déplacement aux Cowboys entre ces 2 matchs face aux Vikings. C'est pas un calendrier facile. Et c'est vrai que, on le voit, hein. Les Vikings, c'est sûr qu'en ce moment, ça fait peut-être sourire. Mais c'est un adversaire de division. Comme je le dis, c'est toujours un petit peu particulier. Et quand en plus, il y aura peut-être un match en playoff, en jeu, ça peut être compliqué. Pour rester dans cette NFC Nord, on va parler quand même un petit peu des Bears. Parce que pour le coup, il y a un très bon match. On va pas réduire cette victoire des Bears à une contre-performance de Détroit, parce qu'on l'a dit il y a 2 semaines ou 3 semaines, il leur avait rendu la vie très difficile. Justin Fields est revenu, il finit à 19 sur 33, 233 yards, un touchdown, ce sont dans les airs, 58 yards au sol, un touchdown à la course. On a l'impression que Justin Fields, il nous fait un peu le coup de l'an dernier, c'est-à-dire qu'en fin de saison, il revient bon, mais pour le coup, il faut le dire, il est bon. Et ses statistiques lui rendent même peut-être pas assez hommage au vu de son bon match.
Je suis d'accord, les statistiques sont presque peu flatteuses par rapport à la prestation d'ensemble et l'impression. Comme tu dis, le souci c'est qu'il refait un peu le coup de l'an dernier et j'aimerais pas particulièrement être le manager général des Bears parce que Chicago s'approche de plus en plus du premier choix de la draft grâce à Carolina, vous en avez parlé dimanche dans le fauteuil. Et là, quand t'as Field qui sort de 2 matchs, 2 victoires de suite avec cette deuxième prestation où il montre en plus qu'il a tous les atouts du quarterback moderne, en fait. Ce qu'on demande à un quarterback en 2023, j'ai envie de dire, être capable d'avancer à la passe, mais aussi de temps en temps d'aller chercher des gains à la course. Bah, forcément, ça te fait un peu cogiter sur est-ce qu'il faut encore lui laisser une chance, continuer à étoffer l'équipe autour de lui. Je sais pas ce que décidera le manager général, mais effectivement, il est bon en attaque. Il y a zéro doute là-dessus, sur ce match.
Et c'est vrai qu'en tout cas, tu l'as dit, ce match a rendu caduque totalement notre fauteuil parce que on imaginait un changement de régime complet à Chicago avec un nouvel entraîneur et un nouveau quarterback parce qu'on sait que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et on parle de Justin Fields, mais Matt Eberflus aussi, il est peut-être en train de sauver sa peau parce que la semaine passée, il remporte sa première victoire face à un adversaire de division. Là, pour la première fois depuis qu'il est entraîneur des Bears, il enchaîne deux victoires consécutives, ça n'était jamais arrivé. Il est en train de peut-être, en effet, de montrer au general manager qu'il faudrait peut-être continuer une saison de plus en rajoutant un Marvin Harrison peut-être et un Justin Fields. En tout cas, les Bears, ils vont mieux depuis quelques semaines.
Les Bears vont mieux et là où aussi, ce qui peut aider dans la balance pour Eberflus, c'est que la défense va beaucoup mieux et c'est un peu c'est censé être sa spécialité. Il était coordinateur défensif avant d'arriver à Chicago, coordinateur défensif des Colts. Et c'est vrai que depuis 3-4 semaines, on a une défense de Chicago qui est vraiment en train de progresser, de briller. Je trouve que l'acquisition de Montez Sweat sur la ligne défensive fait énormément de bien à cette équipe. Sur ce match, il fait encore un sac et de mémoire, il a 8 pressions quand même sur Jared Goff, en plus de son sac. Il est en train de totalement transformer ce pass rush et mécaniquement, le pass rush étant de plus en plus intéressant du côté de Chicago. On voit aussi que ça facilite la vie du backfield défensif à l'image d'un Jaquan Brisker, d'un Johnson qu'on voit de plus en plus aussi au poste de cornerback. Donc cette défense est en train de devenir vraiment très bonne pour le coup. Donc s'il arrive à continuer sur ce rythme sur les 4 prochains matchs, aller en chercher peut-être une, deux victoires de plus, ouais, peut-être qu'il pourrait se donner un peu de crédit encore, effectivement.
Ouais, en effet. Et puis il y a aussi les arrivées des linebackers qu'on a un petit peu questionné en début de saison, mais un Tremaine Edmonds qui a été très bon sur ce match notamment. Et c'est vrai que ça fait du bien. Et c'est vrai que ça donne du crédit à Matt Eberflus. Tu parlais de la suite et d'arracher peut-être des victoires. Et ils vont en tout cas sur 3 des 4 prochains matchs jouer un petit peu les arbitres, les Bears, parce que on le sait, ils ont plus grand-chose à jouer. Mais ils vont aller à Cleveland, qui est encore dans la bataille pour les playoffs. Ils vont recevoir les Cardinals, qui normalement ne seraient plus dans la bataille. Par contre, ils vont recevoir les Falcons en semaine 17 et se déplacer à Green Bay face aux Packers en semaine 18. Donc ce sont des équipes globalement qui vont encore jouer quelque chose. Et quand on voit comment joue Chicago, ce sont des équipes qui n'auront pas un match facile certainement face aux Bears et à Justin Fields. Donc ça va être intéressant d'observer cette équipe pour la fin de cette saison. Voilà, c'est ainsi que se termine ce débrief des affiches de cette semaine 14. Demain, vous aurez le débrief des autres matchs. Il y aura beaucoup de choses à dire, notamment sur ce Chiefs-Bills qu'on a eu l'occasion de voir dimanche. Aussi sur les deux Monday Night Football qui se passeront ce soir, que vous aurez peut-être vu en écoutant ce podcast. Je crois que tu seras avec Alain demain, Raphaël, si mes souvenirs sont bons. Je te l'apprends peut-être. Voilà, je te l'apprends. En tout cas,
merci.
Je me réfère au planning, s'il a changé d'ici là. En tout cas, vous aurez la surprise autant que Raphaël, peut-être demain, en écoutant le podcast. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Raph.
Eh ben, merci à toi, c'était un plaisir.
Eh ben, écoute, partagez, n'hésitez pas, vous savez, vous pouvez retrouver toutes les actus sur touchdownactu.fr, sur les réseaux sociaux aussi, sur Twitter. Je sais que Raphaël est très actif et il est plus que moi, donc je ne serai pas capable de donner son at Twitter, mais je doute pas que vous le connaissez d'ici là, sauf si tu veux le placer comme ça.
C'est je sais même plus en vrai.
Tu t'en rappelles.
Ouais, vous suivez Touchdown Actu et puis voilà, vous finirez par tomber sur moi un moment.
Ouais, il y a des chances, il y a de fortes chances. En tout cas, voilà, on se quitte sur ça. Vous retrouverez donc demain Alain et peut-être Raphaël. Nous, on se quitte et on se retrouve dans très bientôt, encore avec plein de football sur Touchdown Actu. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.